Virginie Langeroc.
Les Lions de Genève sont champions de Suisse de basketball. Ils ont validé leur titre en battant tout à l'heure Fribourg Olympique 80 à 74. Ça se passait au Grand Saconnet. Jérôme Jeannin, ce titre représente un exploit pour le club genevois.
Oui, c'est un immense exploit pour les Lions de Genève parce que Fribourg Olympique régnait sur le basketball helvétique depuis une dizaine d'années, 6 titres consécutifs. Mais Genève a créé la surprise en remportant cette finale 3-1. Ce soir encore, Genève a fait preuve de caractère parce que Genève a vite été menée par Fribourg Olympique qui a pris 10 points d'avance. Mais Genève, à force de courage, a fini par recoller à la fin du troisième carton avant de faire la différence. Genève irrésistible dans le dernier carton. Genève qui s'impose finalement et qui décroche un nouveau titre de champion de Suisse 10 ans après le dernier. C'était en 2015.
Jérôme Jeannin, merci. Donc les Lions de Genève, champion de Suisse de basket. Au-dessus du village de Blatten en Valais, un effondrement de grande ampleur s'est produit ce soir au niveau du glacier du Birch. Une grosse avalanche s'est produite la nuit dernière, mais elle n'a pas atteint le fond de la vallée. Et ce soir, un autre grand torrent formé de glace, de roches, de neige et d'eau s'est détaché selon l'état-major de conduite du Lochental. Il s'agit du plus important effondrement sur le glacier depuis que le village a été évacué il y a 8 jours. Les débris n'ont pas atteint le village de Blatten mais ont glissé jusqu'à un barrage. En France, les députés ont approuvé en première lecture la création d'un droit à l'aide à mourir, autre nom du suicide assisté. C'est la première étape d'une réforme majeure voulue par Emmanuel Macron. 305 députés contre 199 ont approuvé la réforme. Elle avait été mise en chantier en 2022 par le président français. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, espère qu'elle pourra être entérinée avant la présidentielle de 2027. Ce droit à l'aide à mourir sera ouvert aux personnes atteintes d'une affection grave et incurable et présentant une souffrance physique ou psychologique constante, des malades pour lesquels les soins palliatifs ne répondent plus à leur souffrance. En France, ce sujet délicat est régulièrement revenu dans le débat public à la faveur de cas particuliers qui ont suscité une forte émotion et divisé jusque dans le corps médical. Si le texte est définitivement adopté, la France deviendrait le 8e pays européen à légaliser l'aide à mourir. 4 policiers sont prévenus d'homicide par négligence après le décès dimanche d'un homme d'origine africaine. Ça se passait à l'hôtel de police de Saint-Martin à Lausanne. Il avait été interpellé en raison de soupçons d'activité liés aux stupéfiants. Une instruction qui intervient dans une période tendue. En fin de journée, une centaine de manifestants se sont d'ailleurs rassemblés et à Lausanne, ils ont protesté contre les violences policières. La journée de demain sera bien ensoleillée, notamment le matin. L'après-midi sera plus nuageuse. Il y a quelques averses possibles. Maximum 19 degrés avec du vent d'ouest modéré l'après-midi sur le plateau.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Bonjour, Ivor Malherbe au micro. Dans À vol d'oiseau, ce vendredi 30 mai à 19h30, je vous invite au Théâtre de Carouge à un concert donné par la Geneva Camerata autour d'un répertoire qui va nous faire parcourir la Grèce. Des musiques perses aux musiques des Balkans, musiques de Crète ou des îles avec des solistes invités grecs, évidemment, la chanteuse Erini, le violoniste Simos Papanas et le oudiste Timios Atsakas. Plus une petite formation magique issue de la Geneva Camerata, ça donne envie de danser. Je vous attends ce vendredi sur RTS Espace 2 et quand vous le voulez, bien sûr, sur Play RTS.
Les références, Julian Sykes.
Mozart Guilleret pour vous accueillir aujourd'hui, le final de la 33e symphonie par Eugen Jochum et l'Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise. Une interprétation ciselée, vous l'entendez, pleine d'esprit, dans un enregistrement de l'année 1954 qui n'a franchement pas pris une ride. Deuxième émission d'une série de 5 consacrée au grand chef allemand Eugen Jochum. Bienvenue dans les références.
Thank you.
Mozart, le final, Allegro assai de la symphonie numéro 33. Nous écoutions Eugen Jochum et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Voilà une œuvre que Jochum programmait souvent en concert et qu'il a enregistrée à plusieurs reprises, notamment en 1954 ici à la Herkules-Saal de Munich pour la firme Deutsche Grammophon. Eugen Jochum a d'ailleurs très vite décroché un contrat auprès de la Deutsche Grammophon après la Deuxième Guerre. On connaît ses interprétations des symphonies de Bruckner, qui l'ont rendu mondialement célèbre, mais Herbert von Karajan, Carl Böhm et Leonard Bernstein étaient d'autres grands chefs associés au label jaune. On les cite plus régulièrement que Jochum, et je trouve que c'est assez injuste, car Eugen Jochum a enregistré de très belles versions des quatre symphonies de Brahms avec le Philharmonique de Berlin, chez Deutsche Grammophon, et aussi du répertoire classique viennois. On va rester avec Mozart, ce sera maintenant l'Andante de la symphonie 36, dite Linz. Jochum était un classiciste à sa manière, il savait garder la juste mesure des choses lorsqu'il dirigeait cette musique, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ronronnait. Alors évidemment, les cordes ont ici une étoffe plus romantique qu'aujourd'hui, mais on y trouve une candeur très touchante et Eugen Jochum savait faire chanter les lignes mozartiennes. Le voici qui dirige à nouveau son orchestre de la radio bavaroise dans un enregistrement de l'année 1955. Thank you. L'Andante de la symphonie dite Linz de Mozart par Eugen Jochum et l'orchestre de la radio bavaroise. Un enregistrement du mois d'octobre 1955 à la Herkules-Saal de Munich. Eugen Jochum est celui qui a constitué en 1949 cet orchestre qui perdure aujourd'hui encore. On a d'ailleurs tendance à oublier que c'est l'un des plus beaux orchestres en Allemagne. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks pour son titre officiel, dont Sir Simon Rattle est l'actuel directeur musical. C'est quand même pas rien. Jochum va en modeler le son dès la fin des années 40 jusqu'au début des années 60, de Bach à Bruckner, en passant par Haydn, Mozart et Beethoven. Je parle uniquement des classiques, car son répertoire s'étend jusqu'au Requiem de Verdi et des œuvres du XXe siècle. À Munich, il bénéficie de toute l'infrastructure de la radio. Et comme l'explique Christian Merlin dans son livre sur les grands chefs du XXe siècle, c'est l'époque où les offices publics de radiodiffusion allemands investissent massivement dans la culture, symbole fort pour se relever de la barbarie nazie. L'Allemagne est bientôt coupée en deux. À l'Est, en République démocratique allemande, il y a la Staatskapelle de Dresde et le Gewandhaus de Leipzig. Et à l'ouest, dans la République fédérale d'Allemagne, l'Orchestre philharmonique de Berlin et l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise. C'est d'ailleurs avec ces deux dernières formations que Jochum grave des intégrales des symphonies de Brahms et de Beethoven. Nous sommes dans les années 50, à cheval entre la mono et la stéréophonie. Et pour se faire une idée du style de Jochum dans Beethoven, voici l'ouverture de Fidelio, enregistrée en 1959 à la tête de son orchestre à Munich. C'est vif, enlevé, sans lourdeur teutonne, et comme toujours, Jochum fait chanter les différents pupitres, que ce soit les cordes, les bois ou encore les cuivres. Thank you. L'ouverture de l'opéra Fidelio de Beethoven par Eugen Jochum et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dans un bel enregistrement de l'année 1959 à Munich. On trouve parmi les 9 symphonies de Beethoven enregistrées par Jochum dans les années 50 une magnifique exécution de la 4e symphonie à la tête de l'orchestre philharmonique de Berlin, que venait de reprendre d'ailleurs le jeune Herbert von Karajan à partir de 1955. On va en écouter le premier mouvement avec son introduction aux longues notes tenues, dans une ambiance presque pré-brucknerienne, et puis l'allegro vivace joué par les musiciens berlinois, visiblement galvanisés sous la baguette de Jochum. de l'entrain et beaucoup de joie dans le premier mouvement de la 4e symphonie de Beethoven par Eugen Jochum et l'Orchestre Philharmonique de Berlin. L'enregistrement remonte au mois de janvier 1961 à la Jesus Christus Kirche de Berlin et on le trouve dans la première intégrale des 9 symphonies de Beethoven gravée par Jochum entre 1952 et 61 pour Deutsche Grammophon avec 2 orchestres, celui de Berlin et l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise. La carrière d'Eugen Jochum est très dense dans ces années 50. Il dirige au Festival de Bayreuth en 1953 et 54, mais il n'y reviendra que plus tard, car il ne correspond manifestement pas à l'esthétique nouvelle que cherche à promouvoir le directeur et metteur en scène Wieland Wagner. À Munich, il dirige essentiellement le grand répertoire allemand des 18e et 19e siècles, des œuvres contemporaines aussi, mais plutôt tonales, et puis des grandes œuvres chorales. On pense à la Passion selon saint Matthieu de Bach qu'il adorait, mais aussi au Requiem de Verdi ou encore au Te Deum de Bruckner. On va écouter le début de ce Te Deum dans une version de concert en mai 1954 au Deutsches Museum de Munich. Eugen Jochum dirige le chœur et l'orchestre de la radio bavaroise qu'il avait formé d'ailleurs avec des musiciens de premier plan, notamment les membres du Quatuor Kökert qu'on cite régulièrement dans les biographies de l'orchestre. Il faudrait encore ajouter les solistes réunis pour ce concert, enregistré par la radio à l'époque, Andis Cooper, soprano, Ruth Sievert, alto, Lorenz Fehenberger, ténor et Kim Borg, basse.
Thank you.
Le début du Te Deum de Bruckner dans un enregistrement de concert en mai 1954 au Deutsches Museum de Munich. Eugen Jochum dirigeait le chœur et l'orchestre de la radio bavaroise avec pour les solistes Annelies Kuber, soprano, Ruth Sievert, alto, Lorenz Fehenberger, ténor et Kim Borg, basse. À la fin des années 50, Eugen Jochum demande à être relevé de ses fonctions à l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Lui, qui avait d'excellentes conditions quand il a constitué l'orchestre en 1949, est là de se battre contre la direction de la musique de la radio qui diminue sans cesse ses budgets de tournée. Et le bruit court qu'il a reçu une offre aux Pays-Bas, comme l'explique Christian Merlin dans son livre sur les grands chefs d'orchestre du XXe siècle. En 1960, en effet, après avoir quitté Munich, où lui succède Raphaël Kubelik, Eugen Jochum devient co-directeur à l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. Il seconde un tout jeune chef, le néerlandais Bernard Haitink, devenu bien connu par la suite, et qui est venu reprendre cet orchestre à la mort subite du précédent directeur musical Eduard von Beinum en avril 1959 à Amsterdam. C'est une direction conjointe, donc. Au printemps de l'année 1961, Jochum emmène l'orchestre du Concertgebouw pour une tournée de 2 mois aux États-Unis. Il enregistrera par la suite, dans les années 60, une nouvelle intégrale des symphonies de Beethoven avec l'orchestre du Concertgebouw, paru chez Philips. Et c'est justement avec le Larghetto de la deuxième symphonie de Beethoven qu'on va se quitter. Eugen Jochum dirige l'orchestre du Concertgebouw et ce qui frappe ici, c'est à nouveau le naturel du chef d'orchestre. En plus, il s'appuie sur la chaleur des cordes, les bois qui chantent et puis un son rond et transparent. On se quitte sur ce larghetto de la deuxième symphonie de Beethoven. C'était l'enregistrement d'Eugen Jochum à la tête de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. Voilà, c'est ainsi que se termine le deuxième épisode d'une série de 5 émissions consacrées au grand chef allemand Eugen Jochum. Demain, nous écouterons Brahms dans des enregistrements sublimes par l'Orchestre Philharmonique de Londres et aussi l'Orchestre Philharmonique de Berlin et probablement Bruckner. Merci à Bastien Meucli pour son assistance à la réalisation. Merci pour votre écoute fidèle, chères auditrices, chers auditeurs. Et je me réjouis de vous retrouver au plus vite pour de nouvelles aventures dans les références. Vous écoutez RTS Espace 2, il est 23h. Tout de suite, le bulletin d'information suivi de Zone Bleue.